Et bonjour, aujourd'hui c'est Les Livres ont la Parole. Et Les Livres ont la Parole, aujourd'hui on accueille un journaliste espagnol qui s'appelle Monsieur Ignacio Ramonet. Il est aussi écrivain, il est éditorialiste, il est sémiologue, il est l'ancien du monde diplomatique, il est le fondateur d'Attac. Il a soutenu M. Mélenchon aux dernières élections présidentielles et il a été fortement critiqué quand il a fait un livre autour de Castro. Voilà. Alors aujourd'hui, vient de paraître son 18e livre, sauf erreur. Il fait 197 pages, il est chez Galilée et il s'appelle « L'Empire de la Surveillance ». Alors comme première question, j'ai demandé à M. Ignacio Ramonet avec qui il a réalisé sa thèse.
J'ai commencé à faire ma thèse avec Roland Barthes.
D'accord.
Vous voyez, et j'ai eu ensuite, patron de thèse, Christian Metz, qui était celui qui a développé la sémiologie du cinéma.
D'accord. D'où toutes les références à votre livre. Sur le coup, je ne m'en rappelais plus.
Voilà,
il n'y a pas de problème. dont vous avez été ancien directeur oui. du Monde Diplo.
Oui.
Depuis combien de temps vous n'êtes plus?
Depuis maintenant 8 ans.
D'accord.
Là, j'ai été directeur du Monde Diplomatique pendant 18 ans.
Ah voilà, c'est
et
ça.
Et depuis 8 ans, je suis directeur de l'édition espagnole du Monde Diplomatique.
Voilà, c'est ça. Vous avez été fondateur d'Attac avec d'autres.
Fondateur d'Attac avec d'autres, mais c'est moi qui avais eu l'idée et de l'appeler Attac également. Oui.
Ah d'accord, c'est ça.
Oui,
d'accord.
C'est moi qui ai proposé le nom.
D'accord. Vous avez été le soutien de M. Mélenchon lors des dernières. Un des soutiens de M. Mélenchon,
oui,
plus ou moins.
Je signais en faveur de M. Mélenchon, oui. Voilà. Je suis prêt à signer de nouveau, d'ailleurs.
Oui. Et d'ailleurs, vous avez été un peu critiqué lors de vos derniers livres sur Castro. Il y a eu un peu de buzz, comme on dit.
C'est pas moi qui suis critiqué, c'est Fidel Castro qui est critiqué.
Oui, mais bon,
je pense que quand on critique les gens, la moindre des élégances consiste à lui donner la parole pour qu'il puisse s'exprimer. Voilà. C'est ce que j'ai fait.
D'accord. Bien.
Mais il y a des camarades qui n'ont pas compris ça.
Apparemment, oui. Mais on en avait discuté, je crois que c'est la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Alors j'ai noté que c'est votre plus ou moins 18e livre, peut-être quelque chose pour eux.
Voilà, voilà.
Voilà.
J'essaie d'écrire un livre à peu près tous les deux ans.
Voilà. Donc ce livre s'appelle L'Empire de la Surveillance. Il est édité chez Galilée. Et puis à la fin de ce livre, il y a deux interviews absolument passionnantes de Julian Assange et de Noam Chomsky. Alors c'est pas tout à fait sur le même. C'est sur le même sujet, mais ils ne parlent pas tout à fait la même chose.
Les deux sont quand même des personnalités qui ont beaucoup parlé de cette question, c'est-à-dire Assange, bien sûr, davantage avec l'affaire avec Wikileaks, et puis voilà, on vient de le voir récemment, puisqu'il est persécuté,
en raison même
de la dénonciation de cette affaire. Il y aurait eu aussi un entretien avec Edward Snowden, mais je n'ai pas réussi à le faire, puisqu'il est à Moscou. Et Chomsky est quelqu'un qui a dénoncé précisément, ce qu'on a appelé le complexe militaro-sécuritaire ou militaro-industriel, et qui est très préoccupé également par ces questions-là, mais alors sur le plan géopolitique.
Voilà,
donc
c'est
je
ça.
Je pense que ça complète bien la réflexion.
Absolument. Alors juste, on va commencer par un chiffre. J'ai cru comprendre 84% des Français sont prêts à sacrifier un peu de leur liberté en échange de plus de sécurité.
Voilà. Vous savez, je dis dans le livre, je rappelle une phrase d'un des pères de la Constitution américaine, qui est Benjamin Franklin, qui dit « Un peuple qui est prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu plus de sécurité n'aura ni l'une ni l'autre et finira par perdre les deux. » Donc, dès, par conséquent, le XVIIIe siècle, on nous avertit que c'est une fausse équation, en quelque sorte. Pourquoi ? C'est une phrase qu'a répétée récemment Obama, quand il a dit « Écoutez, il faut bien sacrifier un peu de notre sécurité si on veut avoir... sacrifier un peu de notre liberté si on veut avoir...
» Lapsus.
Oui, lapsus, parce que précisément, en réalité, ce qu'on sacrifie, c'est la liberté et c'est la sécurité. Parce que ce que je dis dans le livre, c'est que la sécurité totale n'existe pas.
Bien sûr.
Je dirais même que c'est une question de bon sens. La sécurité totale n'existe pas. Tous les jours, on assiste à des... aujourd'hui, avec la vague terroriste qu'il peut y avoir, on sait bien que ça peut arriver n'importe quand, n'importe quel moment, etc. Bon, et aucun gouvernant, d'ailleurs, il le répète eux-mêmes, la sécurité à 100% n'existe pas. Vous avez le Premier ministre qui répète ça, le Président qui répète ça. Pour ceux pour se soigner en santé, n'est-ce pas, comme on dit. Bon. Et en revanche, on peut affirmer aujourd'hui que la surveillance totale, elle, oui, elle existe. Voyez-vous, la surveillance totale existe, alors que la sécurité sociale, la sécurité totale n'existe pas.
D'accord. Mais alors, c'est tout à fait étrange, parce qu'on a l'impression que plus on le dit, plus dans un coin, en se cachant, ils font exactement l'inverse.
Et voilà, si vous voulez, aujourd'hui, bien sûr, nous sommes, comme tout citoyen, scandalisés par ces odieux attentats. C'est évident que, disons, avec la plus grande énergie, on condamne ces horribles attentats, et aussi bien ceux de janvier de l'année dernière, bien entendu, que ceux du 13 novembre. Mais ce qu'on constate également, c'est que chaque fois que des attentats se produisent, comme ça s'est passé aux États-Unis après le 11 septembre, comme ça s'est passé en Espagne après les attentats de la gare d'Atocha, comme ça s'est passé en Angleterre après les attentats du métro de Londres, comme ça s'est passé en Allemagne après des attentats, et comme ça s'est passé en Turquie avec des attentats, et comme ça se passe en France. Donc maintenant, les gouvernements renforcent les lois antiterroristes. Et les lois sont déjà très importantes. En France, il y a un arsenal extraordinaire.
Pourquoi ils en rajoutent ?
Parce qu'il y a eu déjà, il faut se souvenir que la France a eu affaire à des vagues successives d'attentats. Les attentats de l'OAS pendant la guerre d'Algérie, les attentats du FLN pendant la guerre d'Algérie, des attentats de différentes organisations, disons, luttant pour l'autonomie ou l'indépendance de diverses régions de France, etc. Bon, des attentats d'action directe, de groupes, de groupuscules d'extrême gauche, etc. Et donc, à chaque fois, il y a eu des lois, bien entendu. C'est-à-dire, la France n'est pas démunie en matière de lois. Et aujourd'hui, ces lois se traduisent par une restriction de nos libertés. Et aujourd'hui, on veut tout simplement nous interdire d'avoir une vie privée. Hein, d'avoir le droit à une vie privée, d'avoir le droit à une intimité. Et alors, il ne s'agit pas, je répète, que l'État n'ait pas les moyens de combattre le terrorisme. Il faut qu'il ait les moyens de combattre le terrorisme. Nous sommes des citoyens bien entendu, encourageons l'État, au contraire, à nous protéger. Mais nous disons, il y a d'autres façons de le faire. Et nous disons, on n'est pas contre la surveillance en soi, vous voyez, comme le dit Assange ou comme le dit Snowden, nous ne sommes pas contre la surveillance en soi. Nous sommes pour qu'effectivement les suspects soient surveillés, à condition, bien entendu, qu'un juge autorise cette surveillance. C'est-à-dire que ça se passe dans un cadre démocratique, et non pas que la police ou le service de renseignement décide de lui-même de se mettre à surveiller tout le monde. Vous voyez, la loi renseignement en France maintenant autorise. Maintenant, il faut l'autorisation simplement du Premier ministre. Bien entendu, ensuite, la justice vient vérifier, etc. Mais ce n'est plus le juge qui donne l'autorisation, c'est le Premier ministre, c'est-à-dire, malgré tout, un haut fonctionnaire, vous voyez. Et donc, par conséquent, on voit comment nos libertés sont petit à petit rongées au nom d'une lutte qui est en elle-même juste, bien
absolument
entendu.
Hein. Alors là où vous insistez plus fortement dans votre livre, c'est toutes les sécurités et tous les espionnages sur lesquels on a droit par rapport à l'informatique et Internet en général. Ça, c'est absolument hallucinant. En quelques mots, vous pouvez nous faire l'historique de tout de cet arsenal qui ne fait que croître.
Voilà. C'est-à-dire que il faut bien voir, tout ceci a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale. J'essaie de raconter. Bien sûr, la surveillance existe depuis toujours.
Bien sûr.
Mais la surveillance technologique n'existe pas depuis toujours, parce que les technologies de communication n'existent pas depuis toujours. Donc au fur et à mesure que les technologies de la communication se sont développées, la surveillance technologique s'est développée. Et au cours de la Seconde Guerre mondiale, il a été nécessaire, les services de contre-espionnage, notamment occidentaux, ont essayé de comprendre comment les Allemands, disons, la hiérarchie, l'état-major allemand, communiquait avec ses unités sur les divers fronts, et notamment avec ces sous-marins qui circulaient le long de l'Atlantique, pour leur envoyer les coordonnées des cargos qui venaient des États-Unis pour approvisionner le Royaume-Uni. C'était très important parce que l'Allemagne assiégeait en quelque sorte le Royaume-Uni. C'était le seul État qui n'avait pas été envahi ou occupé par les forces du Troisième Reich, et donc par conséquent, et par ailleurs, il fallait empêcher que les Britanniques accumulent la logistique nécessaire pour le débarquement. Donc, les sous-marins allemands coulaient des dizaines, des centaines, des milliers de cargos. Et parce qu'ils utilisaient un code qui s'appelle le code Enigma, voilà, et il y a eu des films, il y a eu des romans qui ont raconté ça, et il fallait casser ce code Enigma. Alors on a réuni une équipe très exceptionnelle.
De mathématiciens.
De mathématiciens, de physiciens, etc., de petits génies, hein. D'abord des Américains qui eux-mêmes avaient cassé le code des Japonais, donc il y avait une équipe américaine, ensuite une équipe polonaise. Les Polonais ont toujours été extrêmement brillants en matière de mathématiques, et donc une équipe polonaise qui a trouvé refuge en Angleterre, tout ça avec bien entendu des Britanniques, et tout ça autour d'un génie absolu qui est Alan Turing. Voilà. Et Alan Turing, qui est un peu l'inventeur de l'informatique, bon, eh bien Alan Turing, dont on a fait un film récemment, l'an dernier, qui a été proposé aux Oscars, eh bien Alan Turing est le type qui, avec son équipe, en poussant son équipe, etc., a eu l'intuition et a trouvé le code qui a permis de casser Enigma. Alors, une fois que Enigma a été cassé, ben voilà.
Il a trouvé autre chose.
En quelque sorte, ça a permis, c'est un des éléments non visibles, si vous voulez, qui ont permis la victoire contre l'Allemagne nazie. Donc, c'est très important. Et alors, une fois que cette équipe a été constituée, après la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont dit, écoutez, c'est trop beau quand même pour qu'on l'abandonne, d'autant que arrive maintenant la guerre froide, il va falloir qu'on s'oppose aux soviétiques. Et alors cette équipe, disons, américano-britannique, s'est constituée autour d'un accord entre États, un accord qui restait secret. Cet accord s'appelait UKUSA. Pourquoi UKUSA? Parce que UK, United Kingdom, Grande-Bretagne, Royaume-Uni, et USA, parce que les États-Unis. Donc cet accord UKUSA a été le noyau d'un système qui s'est mis à surveiller les communications, et petit à petit, ils ont intégré d'autres États anglo-saxons, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, uniquement ces États-là, curieusement.
Ils avaient la même langue.
Voilà, ils avaient la même langue. Hein, c'était aussi, le Commonwealth britannique. Ça. Et d'autre part, ils ont cette alliance secrète s'est appelée Five Eyes, hein, les cinq yeux, n'est-ce pas? Et autour de cette collaboration, ils se sont mis à surveiller les communications. Alors d'abord, bien sûr, les communications en provenance de l'Union soviétique, mais petit à petit, comme on partait du principe par le maccartisme que les espions soviétiques étaient partout, on s'est mis à surveiller toutes les communications, les téléphones, avec le développement du téléphone. Il ne faut pas oublier que même si le téléphone a été inventé à la fin du 19e siècle, en réalité, des téléphones chez chacun, ça s'est développé, voilà, dans les années 40, les années 50. Et donc, par conséquent, on a commencé à surveiller tout ça, les télégrammes, la télégraphie, on a commencé à surveiller des millions de personnes, petit à petit, et on a constitué un système qui s'est développé secret, qui s'est appelé le système Échelon, et que certainement beaucoup d'auditeurs ont entendu parler, un système qui est resté interdit, c'est-à-dire secret, pendant 50 ans. Ce n'est que dans les années 90.
Oui, voilà. Oui.
Et personne n'était au courant, et tout le monde était surveillé, n'est-ce pas? Et alors, donc, c'est le noyau de base qui a permis cette surveillance. Quand Internet a été inventé, d'ailleurs, en 1989, et quand le web s'est développé, que nous avons eu tous accès aux ordinateurs, aux téléphones aujourd'hui intelligents, etc., eh bien, il est évident que pour le groupe Echelon, qui existe toujours, ça a été une aubaine, parce qu'il est évident qu'ils étaient dotés de tous les, disons, l'appareillage, de toute la technologie sophistiquée, capable de, voilà, se brancher maintenant sur les noyaux de ces communications et de pouvoir finalement accéder pratiquement à l'ensemble des communications. Alors ça paraît dément, mais ça ne l'est pas. Et ça pouvait être un soupçon pendant longtemps, mais depuis que Snowden, agent lui-même de la NSA, a dévoilé de l'intérieur ce que la NSA a fait, et notamment ce qu'on appelle le programme PRISM, c'est-à-dire l'idée de surveiller l'ensemble des communications de toutes les personnes qui ont des téléphones portables, eh bien, nous avons maintenant la preuve de l'intérieur. Et si Snowden est poursuivi, il faut qu'il soit protégé par Poutine pour pouvoir survivre, eh bien, il est considéré comme l'ennemi numéro un des États-Unis, c'est bien que on estime que c'est une information capitale qui dévoile des secrets de comportement très importants. Alors, ça d'un côté. Donc, il y a une histoire de cette surveillance.
Le programme français que j'ignorais complètement, oui. Je ne sais plus comment il s'appelle, le programme PNCD.
Oui.
J'ignorais qu'il y avait presque l'équivalent. Bon, il y a peut-être moins de pourcents.
De même qu'au Royaume-Uni, il y a l'équivalent. C'est-à-dire, d'ailleurs, la France ne fait pas partie d'échelon, mais la France a des accords bilatéraux aussi bien avec les États-Unis qu'avec les Britanniques, comme avec les Allemands. Les Allemands non plus ne font pas partie d'échelon, mais ils ont des accords bilatéraux avec les États-Unis et ils fournissent des informations. Et je donne plein d'exemples d'informations captées par les Allemands, captées par les Américains à l'ambassade des États-Unis à Paris, hein, qui est située, je dis bien, qui est située à deux pas de l'Élysée, à quelques centaines de mètres de l'Assemblée nationale, à quelques pas du ministère de l'Intérieur, etc. Bon. Et dont on sait que l'ambassade a une...
Des grandes oreilles.
Voilà, de grandes oreilles installées au sommet de l'ambassade, etc. Donc, par conséquent, il y a des relations entre tous ces États qui se sont forgées pendant la longue guerre froide et qui, aujourd'hui, continuent de se transmettre des informations, parfois sur les propres ressortissants. La France informe les États-Unis sur ce que font les ressortissants français en France, et ainsi de suite. Et donc, d'une part, il y a ces accords-là, et d'autre part, il y a cet aspect différent. Jusqu'à présent, la surveillance, c'était surtout les États. Et disons que la paranoïa anti-surveillance, qui existe, bien sûr, chez beaucoup de militants, chez beaucoup d'associations, dans le monde associatif, dans le monde syndical, dans le monde politique, n'est-ce pas, on a toujours la crainte des grandes oreilles des services d'intelligence de l'État. Mais le grand changement s'est produit donc il y a quelques années, et aujourd'hui on peut même dire que ce n'est pas l'État qui est le principal surveillant, disons.
C'est GAFAM.
Voilà, c'est les GAFAM. Et qu'est-ce que c'est les GAFAM? Les GAFAM, c'est l'initiale de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Voilà, c'est cinq grandes compagnies, et on pourrait en mettre d'autres, n'est-ce pas? Mais c'est cinq grandes compagnies. D'abord, elles sont centrales chez Internet, et pratiquement tous les usagers d'Internet, et il s'agit de 3,5 milliards de personnes, c'est-à-dire la moitié de l'humanité, utilise Internet, eh bien, quand vous utilisez Internet, c'est très difficile que vous n'utilisiez pas l'une de ces cinq entreprises. Et si vous utilisez une de ces entreprises, eh bien, toutes les données de toutes vos machines...
Il y a un pop-up qui va dire « toc ».
Voilà, exactement, sont captées, et par conséquent, elles sont transmises, elles sont d'abord utilisées par ces grandes entreprises, et elles sont transmises aux grandes agences de sécurité, notamment la NSA. Ça aussi, c'est une des informations que nous a données Snowden.
Ouais. N'est-ce pas ? Et voilà. Assange, pareil.
Et bien entendu, Assange, il ne faut pas oublier que c'est Assange, enfin, c'est, disons, l'organisation de Assange, ou Wikileaks, qui a permis la libération, l'exfiltration de Snowden.
Absolument.
C'est grâce à Assange, à son équipe, à ses avocats, etc., que Snowden a pu quitter Hong Kong et partir en Russie sans que les États-Unis n'aient pu l'attraper.
Alors, est-ce que c'est finalement une transgression de la démocratie? On sait que, par exemple, par rapport à la Constitution des États-Unis, je ne sais plus quel est l'article 2 ou le quatrième, déjà. Oui. Alors, dites-nous le quatrième.
Le quatrième amendement interdit la fouille.
Voilà.
Par exemple, interdit la fouille de votre foyer, de vos affaires et de votre correspondance. C'est le quatrième amendement. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans l'histoire des États-Unis, les Britanniques... Les États-Unis étaient une ancienne colonie britannique, bien entendu. Eh bien, les Britanniques qui occupaient, qui étaient la puissance coloniale des Américains, avaient promulgué une loi qui leur permettait de fouiller sans avertir les maisons des Américains, pour éviter les conspirations. Et donc, les Américains étaient hantés par l'idée qu'à n'importe quel moment, voilà, des militaires anglais pouvaient faire irruption chez les colons et fouiller la maison, etc. Et quand la Constitution a été établie, ils ont demandé à ce qu'il y ait un amendement qui est intouchable, qui est une correction à la Constitution. Et ce quatrième amendement, précisément, est un amendement qui protège les citoyens des États-Unis contre toute fouille. Voilà, qui ne serait pas, bien entendu, légal.
Absolument. Mais alors, comment faire pour affirmer plus fort, je parle des Américains, ce genre de choses-là, et comment faire pour qu'en France, il n'y ait pas l'équivalent?
Alors, si vous voulez, aux États-Unis, il y avait déjà eu des transgressions de cette loi. L'une des plus connues, c'est celle qu'a pratiquée pendant très longtemps le FBI. Le FBI... qui avait été développé en particulier pour s'opposer à la montée d'idées communistes aux États-Unis, eh bien, le FBI, notamment pendant le McCarthyisme, a pratiqué d'une façon illégale la surveillance des correspondances, des communications téléphoniques qui existaient déjà, des télégrammes, etc. Donc,
Charlie Chaplin a eu des
bien
problèmes.
Entendu. Alors ça, c'est bon. Il y a beaucoup de films, et Charles Chaplin a fait partie de ceux qui ont été surveillés. D'ailleurs, il a finalement dû quitter les États-Unis. Absolument. Comme on sait. Alors, donc il y avait eu la période du FBI. Il y a eu ensuite, bien sûr, les attentats du 11 septembre, et puis la loi Patriot Act qui a presque légalisé,
débridé, oui.
Voilà, qui a légalisé des pratiques non démocratiques, qui ont transformé les États-Unis en une sorte, sous prétexte de combattre le terrorisme, une sorte d'État délinquant, puisqu'il s'est permis de faire ce qui est interdit évidemment, par les lois internationales, par exemple d'enlever des gens dans n'importe quel pays, de les prélever comme ça, sans aucun mandat d'arrêt, et de les conduire dans d'autres pays qui étaient des dictatures pour les faire torturer par les sbires de ces dictatures, à l'époque, par exemple, en Égypte, beaucoup, hein, dans d'autres pays.
Dans les avions, et même directement, des fois.
Voilà, dans des avions de la CIA, voilà, qui circulaient chez nous, hein, qui circulaient dans nos aéroports.
Oui, on en a défléché à un moment plusieurs.
Voilà, exactement. Et donc, ces personnes étaient soumises à la torture, on obtenait des déclarations, etc. Et puis ensuite, ils ont créé le bagne de Guantanamo, tout simplement parce que Guantanamo, qui n'est pas un territoire américain, puisque Guantanamo est cubain et c'est un territoire loué par les États-Unis, donc c'est pour ça qu'ils l'ont créé à Guantanamo et pas ailleurs dans un territoire américain, car s'il avait été américain, les lois américaines se seraient appliquées. Et les lois américaines, bien entendu, ne permettent pas la torture et ne permettent pas de détenir quelqu'un sans procès, sans habeas corpus.
Et le summum du summum, c'est que c'est le secrétaire d'État qui a construit la prison.
Voilà, exactement.
C'est encore plus fort, ça.
Oui, et voilà, si vous voulez, l'une des premières lois, quand on parle des droits de l'homme, etc., c'est les Britanniques qui l'ont développé dès le XIIIe siècle, ce qu'on appelle l'habeas corpus. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'habeas corpus? Souvent, on entend beaucoup parler. L'habeas corpus, c'est simplement l'obligation pour le système juridique de dire à la personne qui est arrêtée pourquoi elle est arrêtée. Voilà, pourquoi on vous arrête, hein? Parce que, pendant très longtemps, nous parlons du XIIIe siècle, on pouvait arrêter quelqu'un sans lui notifier la raison de son arrestation. Eh bien, c'est ce que les États-Unis ont pratiqué. Absolument. Et pratiquent à Guantanamo. Les gens qui sont à Guantanamo ne sont accusés de rien. Bien entendu, n'ont pas droit à une défense, n'ont pas d'avocat, il n'y a pas de procès. Bon, d'ailleurs, Obama a promis
de l'équilibrer, puis il n'est pas arrivé.
Et je pense qu'il en a toujours eu l'intention, oui, sincère, oui. Mais le système militaro-juridique ne lui a pas permis. Et voilà, il va terminer son double mandat après 8 ans, et il n'aura pas réussi. Parce que c'est un imbroglio politique, parce qu'on ne sait pas maintenant quoi faire de ces
personnes. Personne ne les veut, etc.
Exactement. Et ça, c'est une aberration créée par le Patriot Act. Et comme on disait tout à l'heure, ben, la France, avec la loi renseignement, finalement, fait son Patriot Act. J'espère qu'il n'y aura pas des dérives, bien entendu.
Déjà, apparemment, on en a relevé quelques-unes.
Voilà, c'est avec l'état d'urgence. Parce que si on ajoute de l'état d'urgence à la loi renseignement, il est évident que nos droits, les droits des citoyens, sont quand même très restreints. Donc, il y a cet aspect, et d'autre part, il y a cette articulation maintenant, n'est-ce pas, entre, d'une part, les grandes entreprises privées qui dominent Internet, qui font qu'Internet, qui pendant une époque, hein, quand au début on a commencé à utiliser Internet, je parle d'il y a 20 ans, Internet, je répète, s'est inventé il y a 26 ans, 27 ans, hein, mais on a commencé en France à l'utiliser à partir de 1994, 1995, bon, donc ça fait à peu près 20 ans, et quand on a commencé à utiliser Internet, c'était comme une libération, tout d'un coup on pouvait se passer, voilà, des PTT, on pouvait se passer des grandes chaînes de télévision parce qu'on pouvait s'informer soi-même, on pouvait se passer des grands journaux parce qu'on pouvait s'informer. C'était un instrument de liberté, voire même un instrument libertaire, parce que on avait comme l'impression, en tout cas l'illusion, que on était maître de faire sa propre éducation, sa propre culture, et c'était aussi une sorte de démocratisation du savoir, n'est-ce pas? Bon, donc il y avait l'illusion d'une très grande liberté. Ben, c'est terminé. Aujourd'hui, Internet s'est recentralisé, complètement centralisé, autour de quelques firmes dont on vient de parler, de corporations géantes. Il faut voir que Google a à peu près 1 milliard, 200 millions, 1 milliard, 300 millions d'usagers. Donc, c'est l'entreprise numéro un au monde, pas en raison de sa cotation en bourse. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, d'une part, il y a ces entreprises privées qui se sont associées à l'État, l'État lui-même surpuissant. Je consacre un chapitre du livre à la NSA, à expliquer Absolument. Ce qu'est la NSA. Absolument. Parce qu'on entend parler de la NSA. Beaucoup de gens pensaient que ce qu'il y avait de plus important en matière de renseignement aux États-Unis, c'était la CIA. Non, c'est la NSA. Voilà. Et il faut savoir, il faut avoir un certain nombre de renseignements. Là aussi, Snowden a été très important dans la révélation de l'importance de la NSA, de quels moyens elle dispose, de quels outils elle dispose, etc., quelles sont les missions. C'est une agence extrêmement secrète, hein.
Alors la question qu'on peut se poser, bon, on a que faut-il faire individuellement d'une part, et puis bon, c'est pour le moment on a tout un tas de personnes dont les fameux lanceurs d'alerte, donc qui essaient de temps en temps de nous expliquer ce qu'on nous fait derrière le dos, mais à part donc c'est qui prennent souvent beaucoup de risques pour faire ça, oui, mais individuellement.
Je profite que vous le citez, bon. Pour rappeler que dans le livre, je fais quelque chose que souvent on néglige de faire. Je donne la liste complète Absolument. De tous ces lanceurs d'alerte depuis Absolument. Déjà une bonne quinzaine d'années, tous Oui. américains, d'ailleurs Oui. tous très courageux, qui ont payé très cher souvent leur courage, hein, parce que c'était soit des anciens de la NSA, soit des anciens de la CIA, soit des anciens du FBI.
Bien, Ignacio Ramonet, je vous remercie beaucoup. Donc, l'Empire de la surveillance, avec deux entretiens à la suite de Julian Assange et de Noam Chomsky chez Galilée, et ça fait dans les 197 pages, mais alors vraiment à lire intensément.
C'est pas cher, hein?
Ah, je sais pas, oui.
Pour 16 euros.
16 euros, oui, ça va.
Pour une édition Galilée, nous savons oui. que c'est parmi les meilleures éditions de. Pour moi, c'est la meilleure.
Hein, Galilée, oui, elle est très belle, très belle.
Qui est reliée, qui est reliée à la main.
Etc. Pas serré.
Donc, c'est un très bon travail technique, disons. Hein, voilà.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci, Robert.